Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Eruvin, page 102, Daf Kuf Bet. Bonne écoute et bon limoud.
C'est lorsque ce verrou est attaché avec une corde fragile qui ne permet pas de transporter ce verrou. Et comme le précise le Tosfot, ce verrou est attaché soit à la serrure, soit à l'encadrement de la porte, voire le Gaon Yaakov. Nous sommes Maseret Eruvin, Daf Kufbet Amud Alef, en haut de la page. Nous avons vu précédemment une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi, à savoir est-ce qu'il est permis d'employer un verrou qui se termine par une boule, et donc peut avoir le statut d'un ustensile. En effet, il peut être employé pour écraser des épices. La question se pose donc, peut-il être employé pour verrouiller une porte lorsqu'il s'agit de l'enfoncer dans le seuil, ce qui pourrait ressembler à une construction? Selon Rabbi Eliezer, il est interdit de l'employer pour verrouiller une porte, à moins qu'il soit attaché et suspendu à la porte. Ainsi, nous voyons clairement qu'il s'agit d'un verrou, et étant donné qu'il est employé régulièrement comme tel, il sera permis de l'employer pendant le Shabbat. Mais s'il n'est pas attaché, ou même s'il est attaché, mais il n'est pas suspendu, plutôt il traîne par terre, il sera interdit de l'employer pour verrouiller la porte. Rabbi aussi, par contre, permet d'employer ce verrou, même s'il n'est pas attaché solidement à la porte. Alors, la Gemara explique que s'il est attaché avec une corde solide qui permet de transporter le verrou, tout le monde sera d'accord qu'il sera permis de l'employer pour verrouiller la porte s'il est attaché et suspendu, comme nous le verrons dans la Mishnah suivante. La discussion est dans le cas où il est attaché avec une corde fragile qui ne permet pas de le transporter. Demar Savar, un des deux pense, Rabbi aussi pense, qui van de yesh berosho glustra, puisqu'au bout de ce verrou il y a une boule, Torat Kli Alav, on lui accorde le statut d'un ustensile, bien qu'il ne soit pas réellement un ustensile, on se contentera d'une corde fragile pour montrer qu'il s'agit d'un verrou, et il sera donc permis ainsi de l'employer pendant le Shabbat. Omar Savar, tandis que l'autre pense, Rabbi Eliezer pense, qui van deno nital biigdo, puisqu'il ne peut pas être transporté par sa corde qui l'attache, car cette corde est fragile, l'eau, non, il sera interdit de l'employer comme verrou. C'est-à-dire, puisqu'il est attaché avec une corde fragile, nous ne considérons pas qu'il est attaché à la porte. Le fait qu'il a une boule ne lui accorde pas le statut d'ustensile, qui, comme nous le verrons par la suite, ne nécessite pas d'être attaché à la porte pour être employé comme verrou. Finalement, nous considérons ce verrou comme étant détaché. Il est interdit de l'employer pour verrouiller une porte le Shabbat. Comme nous l'avons précisé précédemment, il s'agit d'un cas où il est attaché à la serrure ou à l'encadrement de la porte. Dans ce cas, lorsqu'il est attaché avec une corde fragile, nous ne considérons pas qu'il est attaché à la porte. Par conséquent, il est interdit de l'employer comme verrou. Mais comme nous le verrons par la suite dans la Gemara, lorsque le verrou est attaché à la porte elle-même, il sera permis de l'employer pour verrouiller la porte, même s'il est attaché avec une corde fragile. Nous noterons que nous avons expliqué ce passage selon la compréhension du Gaon Yaakov de l'opinion de Rashi. Cependant, il existe encore d'autres explications, notamment le Maharsha. Nouvelle Mishnah, Nagar Hanigrar, un verrou qui se traîne par terre, c'est-à-dire qu'il est attaché à la porte, mais la corde est longue. Le verrou traîne donc sur le sol. Noalin bo bamigdash, il est permis de l'employer pour fermer une porte dans le Betamigdash, dans le sanctuaire, car les Chachamim n'ont pas émis de décret concernant le Betamigdash, aval lo bamdina, mais dans tout le pays, c'est-à-dire ailleurs que dans le Betamigdash, il est interdit de l'employer pour fermer une porte, car cela ressemblerait à construire. Il ne sera donc permis que d'utiliser un verrou qui est attaché et suspendu, qui ne traîne pas au sol. Behamunach est celui qui est posé sur le sol, c'est-à-dire qu'il n'est même pas attaché à la porte. Kan vekan asur, ici et ici, soit dans le sanctuaire, soit dans tout le pays, c'est-à-dire en dehors du sanctuaire, il est interdit d'employer ce verrou pour fermer une porte, car cela serait une interdiction minatora. En effet, employer un morceau de métal ou de bois pour fixer une porte revient à construire, qui est une interdiction minatora. Rabbi Yehuda Omer, Hamunach, le verrou qui est posé sur le sol, c'est-à-dire qu'il n'est même pas attaché à la porte, Mutar Bamigdash, il est permis de l'employer pour fermer une porte dans le sanctuaire. car les Chachamim n'ont pas émis de décret concernant le sanctuaire, d'Hanigrar, est celui qui traîne sur le sol, c'est-à-dire qui est attaché avec une corde longue. Bamedina, il est permis de l'employer pour fermer une porte dans tout le pays, c'est-à-dire en dehors du Beit HaMikdash. Mais en ce qui concerne le verrou qui n'est pas du tout attaché, selon Rabbi Yehuda, c'est une interdiction midérabanan de l'employer pour fermer une porte. Alors la Gemara dit là-dessus, Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta, et Zehu Nagar Hanigrar Shenoalim Bamigdash Aval Lo Bamdina, quel est le verrou qui traîne sur le sol, qu'il est permis d'employer pour fermer une porte dans le Beit HaMikdash, mais non pas dans tout le pays en dehors du Beit HaMikdash? La braïta répond, Kol Shekashur Vetaloui, tout verrou qui est attaché à la porte et y est suspendu, Verosho Echad Magia La Aretz, mais un bout, donc la pointe même, arrive au sol, il est déjà interdit de l'employer pour fermer une porte en dehors du Beit HaMikdash. Il y a plus forte raison qu'il sera interdit de le faire si la corde est suffisamment longue pour que tout le verrou est couché au sol. Rabbi Yehuda Omer, Zé, celui-ci qui est suspendu à la porte, Af Bamdina Moutar, il est permis de l'employer même dans tout le pays en dehors du Beit HaMikdash pour verrouiller une porte. Et là, Ezehu Nagar Shenoalim Bamikdash Avalo Bamdila, mais plutôt, quel est le verrou qu'il est permis d'employer pour fermer une porte dans le Beit HaMikdash, mais qu'il est interdit d'employer dans tout le pays en dehors du Beit HaMikdash pour fermer une porte? Il répond, Kol She'eno lo kashur velo talui, c'est tout verrou qui n'est ni attaché ni suspendu, Veshomto umanicho bekeren zavit, et lorsqu'il ne l'utilise pas, il l'enlève de la porte pour le déposer dans un coin. Celui-ci peut être employé dans le Beit HaMikdash, mais non pas en dehors du Beit HaMikdash. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Halacha ke Rav Yehuda ben Igrar. La Halacha est comme Rav Yehuda concernant le verrou qui traîne sur le sol. C'est-à-dire qu'il sera permis d'employer un verrou qui est attaché, mais dont la corde est suffisamment longue pour que le verrou traîne au sol. Il sera permis de l'employer pour fermer une porte en dehors du Beit HaMikdash. Mais s'il est entièrement détaché, dans ce cas, la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, mais plutôt comme les Chachamim. Et il sera donc même une interdiction minatora de l'employer pour verrouiller une porte, même dans le Beit HaMikdash. Amar Rava, vehu shekashur badelet, mais ce, à la condition que le verrou est attaché à la porte elle-même. Mais si le verrou est attaché à l'encadrement de la porte ou à la serrure, ce n'est pas une preuve suffisante que ce verrou est destiné à servir de verrou. Il sera donc interdit de l'employer pour verrouiller une porte. La Gemara demande, « Eni, ce n'est pas vrai. Veha, Rabbi Tavla, Ikla le Mechouza. » Pourtant, Rabbi Tavla est arrivé à la ville de Mechouza. « Vechaza lehahu dehava tale be'ibra de dasha. » Il a vu un verrou qui était suspendu à la serrure de la porte. « Velo amar lehu velomide. » Et il ne leur a rien dit. Forcément, nous voyons que même si le verrou est attaché à la serrure, donc pas à la porte elle-même, il est permis de l'employer pour verrouiller une porte. La Gemara répond, « Hahu nital be'igdo hava. » Ce verrou en question était attaché avec une corde solide. Dans ce cas, même s'il est attaché à l'encadrement de la porte ou à la serrure, c'est une preuve suffisante qu'il est destiné à servir de verrou. Il sera donc permis de l'employer pour verrouiller une porte. Mais s'il est attaché avec une corde fragile qui ne permet pas de le transporter, dans ce cas, il sera permis de s'en servir pour verrouiller une porte uniquement si ce verrou est attaché à la porte elle-même. Rav Avia Ikla le Nehardea. Rav Avia est arrivé dans la ville de Nehardea. Chazier Lehahu Gavra. Il a vu un homme d'Ehava Kakatir Begmi qui attachait un verrou avec une espèce d'herbe séchée. Amar, il a dit là-dessus, Den Lonitrok. Ce verrou ne pourra pas être employé pour verrouiller une porte. Comme le précise le Gaon Yaakov, il s'agit d'un cas où ce verrou était attaché à la serrure ou à l'encadrement de la porte. Ou bien nous dirons que l'herbe séchée est une corde tellement fragile que même si le verrou est attaché à la porte elle-même, nous le considérons comme étant entièrement détaché et ne pourra pas être employé, même selon Rabbi Yehuda. Jusqu'à présent, nous parlons d'un verrou qui s'enfonce dans le seuil, dans une situation où le trou ne traverse pas le seuil. Ba'e Rabbi Zera Nikmaz Mahu. Dans le cas où le trou dans lequel le verrou s'enfonce traverse le seuil, et ainsi, le verrou s'enfonce dans le sol. Qu'en est-il? Est-il permis de l'employer pendant le Shabbat? Ou cela ressemblerait à construire? Il sera interdit de l'employer pendant le Shabbat, même s'il est attaché. Amar Rav Yosef, Maïti Vele, quelle est sa question? Lo Shami Ale Hadetania, n'a-t-il pas entendu ce qui est enseigné dans la braïta suivante? La braïta dit Nishmat Asur. Si la corde qui attache le verrou s'est coupée de manière à ce que lorsqu'on enlève le verrou, on le pose dans un coin, Asur, il est interdit de l'employer pour verrouiller une porte le Shabbat. Et ce, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, selon tout le monde. Nikmaz. Mais lorsque le trou dans lequel le verrou s'enfonce traverse le seuil et atteint le sol, Moutar, il est quand même permis d'employer le verrou pour verrouiller la porte. Rabbi Yehuda Amar, Nikmaz, dans le cas où le trou dans lequel le verrou s'enfonce traverse le seuil et atteint le sol, Afalpi Sheino Nishmat, même si le verrou n'est pas détaché, c'est-à-dire même si le verrou est attaché à la porte, Assur, il est interdit de l'employer pour verrouiller une porte, car cela revient à construire. Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Halacha ki Rabbi Yehuda ben Nikmaz. La halacha est comme Rabbi Yehuda concernant le trou du verrou qui traverse le seuil et qui atteint le sol. Et donc, nous voyons bien que la halacha est qu'il est interdit d'employer le verrou dans cette situation. La Gemara demande, Veta Mamai, quelle est la raison, pourquoi est-il interdit d'employer le verrou dans cette situation? La Gemara répond, Amar Abaye, Mishum de Merzek et Bonnet, car cela ressemble à la construction. En effet, puisqu'à chaque fois le verrou s'enfonce dans le sol, lorsqu'on le plante solidement, cela revient à construire. Ba'amine Rav Nechumi bar Zecharia me Abaye. Rav Nechumi, fils de Zecharia, a posé la question suivante à Abaye. À Salobetiad Mahou. S'il a planté un manche au centre du verrou, qu'en est-il? Sera-t-il permis de l'utiliser, même s'il n'est pas attaché ou non? Amarle, Abaye lui a répondu, Bukhna Ka'amart, parles-tu d'une espèce de masse employée pour broyer le blé? Autrement dit, puisque il lui a fait ce manche, il a réellement le statut d'un ustensile, il sera permis de l'employer même s'il n'est pas du tout attaché. Itmar, il a été dit, justement, un enseignement, Amar Rav Nechumi Barada, à Salo Betiad, s'il a fait un manche pour ce verrou, Moutar, il sera permis de l'employer pour verrouiller une porte, même s'il n'est pas du tout attaché. Car dans ce cas, il a entièrement le statut d'un ustensile, il n'est même pas nécessaire de l'attacher pour pouvoir l'employer. Voir le Orzaroua. Hahu Sharita Dehava Be Rabbi Padat, il y avait une poutre qui se trouvait dans la maison de Rabbi Padat, Dehava Madula Be Asara, qui était tellement lourde qu'il fallait 10 personnes pour la soulever, Veshadula Adasha, et il la plaçait contre la porte pour la verrouiller. Velo Amar Lehu Velomide, et il ne leur a rien dit à ce sujet, autrement dit, il leur a permis même de s'en servir pendant le Shabbat. Amar, et cela parce qu'il a dit, Torat Klia Leha, cette poutre a le statut d'un ustensile. En effet, elle peut servir de banc pour s'asseoir dessus. Il est donc permis de l'employer pour verrouiller une porte, même si elle n'y est pas du tout attachée. Hahi Asita Dehavat Be Mar Shmuel. Il y avait un mortier qui se trouvait dans la maison de Mar Shmuel, Dehava Marzekat Adriba, et qui contenait l'équivalent de 15 CA, soit un peu moins qu'un quart de mètre cube. Shara Mar Shmuel Le Mishdeyeh Adasha. Mar Shmuel a permis de la placer contre la porte pour la verrouiller. Amar, car il a dit, Torat Kli Aleha, ce mortier a le statut d'un ustensile. Il est donc permis de l'employer pour fermer une porte. Cela ne ressemble pas à construire. Il ne sera donc même pas nécessaire qu'elle soit attachée à la porte pour l'employer. Shalach le Rami Bar Yecheskel le Rav Amram. Rami Bar Yecheskel a envoyé le message suivant à Rav Amram. Nemalan Mar, que notre maître nous dise, Mehalen Mile Maaliata, de ses bons enseignements, donc de ses enseignements de grande valeur, de Amartlan Mishmeh de Rabassi, que tu nous avais dit au nom de Rabassi, d'équipé de Arba, à propos des cerceaux qui sont dressés tout le long du bateau. Il s'agit d'une suite de cerceaux placés en travers du bateau sur toute sa longueur, sur lesquels on étendait des nattes ou des habits pour protéger du froid et de la pluie. Shalachle, Rav Amram lui a envoyé la réponse suivante. Hachiyama Ravasi, c'est cela que Ravasi a dit. Hanekipe de Arba, ces cerceaux qui sont placés sur le bateau, Bisman Shesh Bahem Tefar, lorsque ces cerceaux ont une largeur d'un tefar au moins sont environ 10 cm, nous pouvons donc considérer qu'il y a un début de toit, Inami ou bien Enbahem Tefar, même s'ils n'ont pas une largeur d'un tefar, Ben Benzelaze Shlosha, mais entre chacun de ces cerceaux, il y a une distance inférieure à 3 tfachim. Selon le principe de la voûte, selon lequel nous considérons qu'un espace inférieur à 3 tfachim est comblé, nous pouvons considérer que tous ces cerceaux sont reliés et en fait le toit existe déjà. Par conséquent, le machar le lendemain pendant le Shabbat, mais vi machatzelet, il peut emmener une natte ou pourrait saléem et l'étendre sur ses cerceaux. Maïtama, pourquoi? Il répond, Mosif al ohel araihu, nous considérerons cette action comme ajoutée sur un toit provisoire. Veshapir dami, et c'est bon, c'est-à-dire il est permis de le faire. Autrement dit, lorsqu'un toit existe partiellement, il est permis d'ajouter dessus d'une manière provisoire, comme dans ce cas, étendre une natte sur les cerceaux, cela ne sera pas considéré comme étant construire. Mais si le toit est inexistant, par exemple si les cerceaux n'ont pas une largeur d'un tefach et ils sont distants de 3 tefachim ou plus, le fait d'étendre sur ces cerceaux une natte serait créer un toit provisoire, ce qui est interdit, midérabanan. Hanhu dichre dehavuleh li ravuna. Rav Huna avait des béliers, des beimama ba'utula, qui pendant la journée avaient besoin d'ombre, ou belelia ba'uavira, et pendant la nuit ils avaient besoin d'air. Alors pendant la semaine, ils étendaient une natte sur une série de piquets pour faire de l'ombre et donc les protéger du soleil, et la nuit ils enlevaient la natte, ainsi ils avaient suffisamment d'air. Ata le kameh de Rav, il s'est présenté devant Rav pour lui demander quoi faire pour Shabbat. Amarle, Rav lui a dit, Zil keroch budia, avant le Shabbat, lorsque tu veux enlever cette natte, roule-la, ve shayer bah tefach, de manière à laisser un tefach déroulé. Ainsi, nous pouvons considérer qu'une partie du toit existe déjà, le machar, le lendemain, donc le Shabbat matin, lorsque tu veux les protéger du soleil, pashta, tu peux la dérouler. Umosif al ohel arayu, nous considérons cela comme ajouté sur un abri provisoire, Veshapir Dami, et c'est bon, il est permis de le faire même pendant le Shabbat. Amar Rav Mishum Rabichia, vilon un rideau qui ferme une porte, Mutar Lintoto, il est permis de l'étendre pour fermer la porte, ou Mutar le Fonko Beshabbat, et il est aussi permis de le démonter pour ouvrir la porte pendant le Shabbat. Et cela car il est considéré comme une porte qui est destinée à être ouverte et fermée constamment. En effet, lorsque nous interdisons de créer un abri provisoire, c'est uniquement lorsqu'il s'agit d'un toit, mais s'il s'agit d'une paroi, il n'y a pas d'interdiction de le faire, puisqu'il s'agit d'une action provisoire. Kilat Hatanim, le ciel du lit nuptial, qui a cela de particulier que, contrairement aux autres lits dont l'armature est constituée de 4 piquets reliés entre eux, de manière à ce que lorsqu'on étend la tenture pour protéger le lit, il y a un toit et des parois. Il sera donc interdit d'étendre la tenture sur cette armature pendant le Shabbat, car ce serait constituer un toit provisoire, ce qui est interdit midérabanan. Mais pour le lit nuptial, l'armature est constituée de 2 piquets reliés entre eux, de manière à ce que lorsqu'on étend la tenture, elle forme une espèce de tente dont les parois sont très inclinées et il n'y a pas de toit. Mutar le forka velintotah beShabbat, il est permis de démonter ce ciel et de le remonter, donc d'étendre la tenture pendant le Shabbat, car nous considérons que cette tenture ne forme que des parois sans toit, il est donc permis de le faire pendant le Shabbat. Amar Rav Sheshet Bereh Deravidi, Lo Amaran, nous disons cela qu'il est permis d'étendre la tenture du ciel du lit nuptial, et là chez Nbegaga Tefar, c'est uniquement à la condition que la tenture ne forme pas un toit d'une largeur d'un Tefar. Ainsi, nous considérons qu'il n'y a que des parois sans toit. Aval yesh begagah tefach, mais si la tenture forme un toit d'un tefach de largeur, assur, il sera interdit de l'étendre ou de la démonter pendant le Shabbat. Vechi en begagah tefach, et même lorsque la tenture ne forme pas un toit d'une largeur d'un tefach, lo amaran, nous disons cela qu'il est permis de l'étendre et de la démonter pendant le Shabbat, et là chez en bepachot mishlosha samuch legag tefach, uniquement à la condition qu'à légèrement moins que 3 tefachim du sommet de cette tente, les parois de celle-ci sont tellement rapprochées qu'il n'y a pas une largeur d'un tefach entre les 2 parois. Aval yinsh bepachot mishlosha samuch legag tefach, mais si à légèrement moins que 3 tefachim du sommet de la tenture, les parois sont suffisamment écartées qu'il y a là-bas une largeur d'un tefach, selon le principe de la voûte, selon lequel un espace de moins de 3 tefachim est considéré comblé, par conséquent, nous pouvons considérer que le toit se situe à ce niveau, à moins de 3 tefachim du sommet de la tenture, et s'il y a une largeur d'un tefach entre les parois, nous pouvons considérer que la tenture forme un toit d'une largeur d'un tefar. Par conséquent, à Sour, il sera interdit de l'étendre ou de la démonter pendant le Shabbat. Car finalement, cette tenture forme un toit et des parois. Vechi en bepachot mishlosha samuch legag tefar, et même lorsqu'à légèrement moins que 3 tefachim du sommet de la tenture, les parois de celle-ci sont tellement rapprochées qu'il n'y a pas là-bas une largeur d'un tefar, Nami lo amaran, nous nous disons qu'il est permis de l'étendre et de la démonter pendant le Shabbat, et là uniquement dans le cas chez N.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kuf Bet Amud Bet, Beshipua Tefar. Dans le cas où l'inclinaison totale des parois de cette tenture est de moins d'un tefar, c'est-à-dire dans le cas où le bas de la tenture ne s'écarte pas du centre de la tente ainsi formée, d'une distance supérieure ou égale à un tefar. Ceci est possible soit lorsque cette tenture ne couvre pas toute la largeur du lit, elle est simplement placée pour embellir le lit, soit lorsque le toit formé par cette tenture est constitué d'une série de petits toits pointus qui répondent aux critères fixés par la Gemara, c'est-à-dire lorsque l'armature n'est pas constituée uniquement de deux piquets placés au centre du lit, mais plutôt d'une série de piquets à hauteur différente placés le long du sommet et du pied du lit. C'est-à-dire, aux deux coins du lit, il y aura deux piquets relativement bas qui forment la première armature, puis à moins de un tefar de distance, il y aura deux autres piquets dont la hauteur dépasse celle des premiers de plus de 3 tefachim, puis à moins de 1 tefar de distance, il y a à nouveau deux piquets plus bas dont la hauteur est équivalente à celle des premiers, puis à nouveau à moins de 1 tefar de distance, il y aura deux piquets plus hauts, et ainsi de suite jusqu'à couvrir toute la largeur du lit. De manière à ce qu'en étendant la tenture sur cette armature, il n'y aura pas de toit d'un tefar de largeur, et les parois de ces petits toits pointus seront tellement rapprochés qu'à légèrement moins que 3 tefachim du sommet de ces toits, il n'y aura pas une largeur d'un tefar, et à la base de chacun de ces toits, il n'y a pas une distance entre la paroi et le centre du toit ainsi formé d'un tefar. Ainsi, en étendant la tenture sur cette armature, nous ne considérons pas qu'un toit a été formé, mais plutôt uniquement des parois, voir le Tosfot. Aval yesh beshipua tefar. Mais si l'inclinaison totale de cette tenture est d'un tefar ou plus, c'est-à-dire si entre la base de la paroi et le centre du toit ainsi formé, il y a une distance supérieure ou égale à un tefar, shipu'e ohalim ke ohalim damu. L'inclinaison d'une tente, donc d'un abri, est considérée comme étant un abri. C'est-à-dire nous considérons que la paroi de cette tente forme aussi un toit, il est donc interdit de l'étendre pendant le Shabbat, car ce serait créer un abri pendant le Shabbat, ce qui est interdit, midrabanan. Ve'amar Rav Shisha Bereh Deravidi, Saina Share. Il est permis de porter un chapeau de feutre pendant le Shabbat. La Gemara demande, Ve'atania Asur, pourtant il est enseigné dans une braïta qu'il est interdit de porter un chapeau de feutre. La Gemara répond, Lakashia, il n'y a pas de contradiction entre la braïta et l'enseignement de Rav Shisha Bereh Deravidi. Ha, ici, dans la braïta, il s'agit des Ibe Tefar, où les bords de ce chapeau ont un Tefar de largeur. En le mettant sur la tête, on pourrait considérer qu'il crée un abri. Aha, mais dans l'enseignement de Rav Shisha Bereh Deravidi, il s'agit d'un cas de l'Ed Beh Tefar, où les bords de ce chapeau n'ont pas une largeur d'un tefar. Il sera donc permis de le porter pendant le Shabbat. La Gemara demande la Meata si c'est ainsi. Si porter un chapeau dont les bords ont une largeur supérieure ou égale à un tefar est considéré comme créer un abri, Sharviv Biglimeh Tefar, s'il a mis son talit sur sa tête de manière à le faire dépasser d'un tefar, hachinami de asur, dira-t-on aussi que c'est interdit le Shabbat, car ce serait créer un abri pendant le Shabbat? Ce n'est pas logique. L'agma répond, et là plutôt, l'akashia, il n'y a pas de contradiction entre la braïta et l'enseignement de Rav Shisha Bereh Deravidi. Ha, l'enseignement de Rav Shisha Bereh Deravidi de Miyadak parle d'un cas où le chapeau est solidement fixé à la tête, c'est-à-dire qu'il l'a fixé avec une lanière autour du cou. Ainsi, il n'y a pas à craindre qu'il s'envole et qu'il le porte dans la voie publique le Shabbat. Ah, mais dans la Braïta, de l'Omiyadak, il s'agit d'un cas où le chapeau n'est pas solidement fixé Et lorsque la Braïta interdit de le porter, ce n'est pas parce que ce serait créer un abri, mais plutôt parce qu'elle craint que le chapeau s'envole et que cette personne porte ce chapeau dans la voie publique sur une distance de 4 coudées. Il aura donc transgressé une interdiction de porter dans la voie publique le Shabbat. Nouvelle Mishnah. À l'époque, les charnières de porte ne se présentaient pas comme celles que nous avons aujourd'hui sur les côtés, mais plutôt il s'agissait d'espèces de pointes qui dépassaient au-dessus et en dessous de la porte et qu'on faisait rentrer dans des trous correspondants dans le toit et le sol de l'armoire par exemple. Alors la Mishnah dit « Marzirin tsir hatarton bamikdash » il est permis de remettre en place la charnière inférieure de la porte d'un ustensile comme une armoire, et ce uniquement dans le Beth Amikdash, dans le sanctuaire, lorsque l'armoire dont il est question contient des produits nécessaires pour le sacrifice, comme du sel ou de l'encens. Donc, si la charnière inférieure est sortie de son endroit, il est permis de la remettre en place, à Vallobamdina, mais non pas dans le reste du pays, en dehors du Beth Amikdash. Cela car c'est interdit, Miderabanan, de peur qu'il ait besoin de consolider cette charnière avec un outil comme un marteau, ce qui serait interdit minatora veha elyon. Mais lorsque c'est la charnière supérieure qui est sortie de sa place, kan vekan asur, ici et ici, c'est-à-dire soit dans le Beth Amikdash, soit dans le reste du pays, il est interdit de le remettre en place. Et cela, car selon le premier auteur de la Mishnah, l'interdiction de construire ne s'applique pas seulement pour ce qui est fixé à la terre comme une maison, mais même pour les ustensiles. Donc, puisque c'est la charnière supérieure qui est sortie de sa place, la porte tombe entièrement, donc la replacer serait considéré comme construire l'armoire. C'est une interdiction minatora, il ne sera donc même pas permis de le faire dans le Beth Amikdash. Rabbi Yehuda Omer, Ha Elyon, lorsque c'est la charnière supérieure qui est sortie de sa place, Bamikdash, il est permis de la replacer dans le Beth Amikdash, car le faire ne serait qu'une interdiction midrabanan, qui n'existe pas lorsqu'il s'agit de l'offrande d'un sacrifice. Ve'atarton, lorsque c'est la charnière inférieure qui est sortie, Bamdina, il est permis de la remettre en place dans le reste du pays, donc en dehors du Beth Amikdash, car il n'y a même pas d'interdiction midrabanan de le faire. En l'agmara dit là-dessus, Tanu Rabanan, nos chachamim ont enseigné dans une braïta. Tsir delet, la charnière inférieure d'une porte, shida teva ou migdal, d'un buffet, d'une boîte ou d'une armoire, qui est sortie de son endroit, Bamikdash, lorsque c'est dans le Beth Amikdash, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une armoire qui contient des produits nécessaires pour l'offrande d'un sacrifice, comme du sel et de l'encens marzirim, il est permis de la remettre en place, car les chachamim n'ont pas mis d'interdiction lorsqu'il s'agit de l'offrande d'un sacrifice. Bamedina, mais dans le reste du pays, en dehors du Beth Amikdash, il est interdit de la remettre en place, plutôt d'ochakim, c'est-à-dire, si la charnière n'est pas entièrement sortie de son endroit, il est permis de la pousser pour qu'elle se remette en place dans le trou correspondant. Veha Elyon, et si c'est la charnière supérieure qui est sortie de son endroit, la porte est donc tombée entièrement. Kan vekan, ici et ici, c'est-à-dire soit dans le Beth Amikdash, soit dans tout le pays en dehors du Beth Amikdash, lo yachzir, il sera interdit de la remettre en place, car ce serait replacer une porte dans une armoire. Ce qui est interdit, minatora, car l'interdiction de construire existe non seulement dans ce qui est solidement fixé au sol comme une maison, mais même pour les ustensiles. Et la raison pour laquelle il est interdit de remettre en place la charnière inférieure dans tout le pays, c'est-à-dire en dehors du Beth Amikdash, c'est Gzera Shema Itka, c'est un décret, de peur qu'il ait besoin de consolider cette charnière en l'enfonçant avec un outil comme un marteau, des Imtaka, et s'il a renforcé cette charnière en employant un outil comme un marteau, Chayav Khatat, il aura l'obligation d'offrir un korban Khatat, car il a transgressé une interdiction minatora. Shel Bor, Veshel Dout, Veshel Yatsia, mais s'il s'agit de la charnière de la porte d'un puits, d'une citerne ou d'une dépendance comme d'une cave, qui est sortie de sa place, même, comme l'explique le Rabbeinu Yonatan, s'il s'agit de la charnière inférieure, Lo Yachzir, il n'aura pas le droit de la remettre en place, et ce, même dans le Beth Amikdash. Ve'im Herzir, et s'il a remis même la charnière inférieure de cette porte à son endroit, Chayav Khatat, il aura l'obligation d'offrir un korban Khatat, car il a transgressé une interdiction minatora. En effet, puisqu'il s'agit de la porte d'une construction fixée à la terre, même une petite réparation comme remettre en place la charnière inférieure est considéré comme construire ce qui est une interdiction minatora. Nouvelle Mishnah, Marzirin Retia Bamikdash, il est permis de remettre un pansement dans le Betamikdash, c'est-à-dire un Kohen qui a eu besoin d'enlever un pansement qu'il avait sur sa main pour effectuer le service d'offrir un sacrifice, car pour effectuer le service, rien ne doit faire écran entre la main du Kohen et l'ustensile sacré qu'il tient, car sinon le service ne serait pas valable. Les Chachamim lui ont donc permis de remettre le pansement après le service, car comme il est expliqué dans la Gemara dans Maseret Betza daf Yud Alef Amud Bet, si les Chachamim ne le lui permettaient pas, il y a un risque que le Kohen s'abstiendrait d'effectuer le service, sachant qu'il doit enlever son pansement et ne peut plus le remettre après. Aval Lobamdina, mais pas dans tout le reste du pays, en dehors du Betamikdash, car il y a le risque qu'il veuille étaler et lisser la pommade qui se trouve sur ce pansement, ce qui serait une interdiction minatora, comme nous le verrons par la suite. Imbitrila, mais si c'est au début, c'est-à-dire si la personne s'est blessée pendant le Shabbat, et donc il veut mettre un premier pansement pendant le Shabbat, Kan vekan, ici et ici, soit dans le Betamikdash, soit à l'extérieur du Betamikdash, Assur, il est interdit de le faire. Et cela, car il y a un risque qu'il veuille étaler et lisser la pommade sur le pansement, ce qui serait une interdiction minatora. Les Chachamim n'ont levé leur interdiction dans le Betamikdash que lorsqu'il s'agit d'effectuer un service, mais non pas lorsqu'il s'agit d'un besoin personnel du Kohen. En l'Agmara dit là-dessus, Tanou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné dans une braïta, Retia Sheparsha Maal Gabe Maka, un pansement qui est tombé d'une plaie, Marzirin Beshabbat, il est permis de le remettre pendant le Shabbat. Et cela car il est peu courant qu'un pansement tombe pendant le Shabbat, en effet, en général, il est attaché solidement. Puisqu'il s'agit d'une situation peu courante, les Chachamim n'ont pas émis de décret à ce sujet. Mais s'il l'a enlevé consciemment, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, il n'aura pas le droit de le remettre. Rabbi Yehuda Omer, Pour le kalemata, si le pansement a glissé vers le bas, d'orkah le mala, il peut le repousser vers le haut pour recouvrir la plaie. Le mala, si le pansement a glissé vers le haut, d'orkah le mata, il peut le repousser vers le bas pour recouvrir la plaie. Mais s'il est tombé entièrement, il n'aura pas le droit de le remettre. Ou megale miktsat haretia, il a le droit aussi de découvrir une partie du pansement pendant le Shabbat. Ou mekanear piyamaka, et d'essuyer la plaie de ses impuretés, par exemple du sang ou du pus qui coule, Bechoser ou Megale Miktsad Retia, puis il découvre à nouveau l'autre partie du pansement, ou Mekanear Piyamaka, et essuyer le reste de la plaie de ses impuretés. Ou Retia Atzma Loyekanear, mais il n'aura pas le droit d'essuyer le pansement, Mipne Shehu Memareach, car en ce faisant, il lisse la pommade qui se trouve sur le pansement, ce qui est une interdiction minatora, Vim Mireach. Et s'il a lissé la pommade qui se trouve sur le pansement, Chayav Khatat, il aura l'obligation d'offrir un korban Khatat, car il a transgressé une interdiction minatora. En effet, cette action rentre dans le cadre du type de travail qui s'appelle Memachek, lisser une peau avec un outil quelconque pour la rendre utilisable. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Halacha que Rabbi Yehuda, la Halacha est comme Rabbi Yehuda, qui interdit de remettre un pansement qui est tombé, il ne permet que de remonter un pansement qui a glissé. Amar Rav Chisda, Lochanu, nous ne disons cela que le premier auteur de la Braïta permet de remettre un pansement qui est tombé, et là chez Pircha Al-Gabekli, uniquement si ce pansement est tombé sur un ustensile, comme un coussin ou un matelas. Cette situation n'est pas considérée comme remettre un nouveau pansement. Aval Pircha Al-Gabekarka, mais si le pansement est tombé sur le sol, Divrei Hakol Assur, selon tout le monde, même selon le premier auteur de la Braïta, il est interdit de le remettre, car cela est considéré comme placer un nouveau pansement. Amar Mar Bar Ravashi, Mar fils de Ravashi, a dit, Hava Kaimna Kameh Abba, je me tenais devant mon père, Ravashi, Naflale Abesadia, son pansement est tombé sur son coussin, Pekameh Haderle, et il le remettait pendant le Shabbat. Aminale, je lui ai dit, Lo Savarla Mar, est-ce que mon maître ne pense pas l'Ehad Amar Rav Chisda, ce que Rav Chisda a dit, Machloket, la discussion entre le premier auteur de la Braïta et Rabbi Yehuda, chez Pircha Al-Gabekli, c'est uniquement dans le cas où le pansement est tombé sur un ustensile comme le coussin ou le matelas, Aval Pircha Al-Gabekarka Assur, Mais si le pansement est tombé sur le sol, tout le monde est d'accord qu'il est interdit de le remettre. Ben Amar Shmuel, et Shmuel a dit, Halacha ke Rabbi Yehuda, la Halacha est comme Rabbi Yehuda. Donc, même si le pansement est tombé sur un ustensile comme le coussin, il est interdit de le remettre pendant le Shabbat. Amarli, il m'a répondu, donc Ravashi lui a répondu, Lo Shamiali, je n'ai pas entendu une chose pareille que l'Omar, cela veut dire Lo Svirali, je ne pense pas comme Rav Frisda, je suis donc en désaccord avec lui, je pense que la discussion entre le premier auteur de la Braïta et Rabbi Yehuda est dans le cas où le pansement est tombé sur le sol. Mais s'il est tombé sur un ustensile comme le coussin ou le matelas, même Rabbi Yehuda sera d'accord qu'il sera permis de le remettre. Nous avons fini ici le shiur de Masechet Eruvin d'Av Kuf Bet. Nous commençons le shiur de Masechet Eruvin d'Av Kuf Gimel. Nous commençons d'Av Kuf Bet Amud Bet à la 9e ligne du bas de la page à la Mishnah. Alors, la Mishnah dit Koshrin Nima Bamigdash. Il est permis de nouer la corde d'un instrument à corde comme celle d'un violon qui s'est cassé pendant le Shabbat, et ce, dans le Beit HaMikdash. Et ce, car pendant l'offrande des sacrifices pendant le Shabbat, et tous les jours de la semaine, des cantiques sont chantés accompagnés de musique. Les instruments de musique sont donc nécessaires pour l'offrande d'un sacrifice. L'auteur de la Mishnah pense que de même qu'il est permis de transgresser le Shabbat pour l'offrande d'un sacrifice, il sera permis aussi de transgresser le Shabbat pour arranger le nécessaire pour l'offrande du sacrifice si cette action ne pouvait pas être faite la veille. Donc, il sera permis d'arranger cet instrument de musique qui s'est cassé pendant le Shabbat. Il était donc impossible de le réparer la veille avant le Shabbat. Aval lo bamdina, mais pas dans le reste du pays en dehors du Beit HaMikdash. Ve'im bitrila, mais si c'est au début, c'est-à-dire s'il s'agit de placer une nouvelle corde à un instrument, kan ve kan, ici et ici, soit dans le Beit HaMikdash, soit à l'extérieur du Beit HaMikdash, assur, il est interdit de le faire, car même si cet instrument est nécessaire pour l'offrande du sacrifice, il était possible de l'arranger la veille. Dans cette situation, il est interdit de transgresser le Shabbat pour faire le nécessaire pour l'offrande du sacrifice. En la Gemara demande, Veramin Hu, on a opposé à la Mishnah la braïta suivante, Nimat Kinor Shenifseka, la corde d'un violon qui s'est cassée pendant le Shabbat, Lo Haya Koshra, il n'a pas le droit de la nouer, et la Onva, il a seulement le droit de l'attacher par un nœud coulant. Nous voyons de cette braïta que même dans le Beit HaMikdash, il est interdit de faire un nœud pour réparer un instrument de musique. La Gemara répond, La Kashia, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Ha Rabbanan, la Braïta exprime l'opinion des Chachamim. Ve Ha Rabbi Eliezer, tandis que la Mishnah exprime l'opinion de Rabbi Eliezer. La Gemara précise, les Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer de Amar, qui dit, Marchire Mitzvah Dochin et à Shabbat, le nécessaire pour l'accomplissement d'une Mitzvah repousse le Shabbat. C'est-à-dire que de la même manière que certaines Mitzvot sont obligatoires, même le Shabbat, comme la circoncision et l'offrande d'un sacrifice, selon Rabbi Eliezer, il est permis aussi de faire le nécessaire pour l'accomplissement de ces mitzvot. Selon lui, donc, comme il est enseigné dans Maseret Shabbat d'Av Kuf Lamed, il est permis de fendre du bois pour faire du charbon qui permettra de fabriquer un couteau pour la circoncision. Selon lui, Koshra, il sera permis même de faire un nœud véritable pour réparer un instrument à cordes pendant le Shabbat, puisqu'il s'agit d'un instrument qui sera utilisé pour accompagner le chant qui se chante pendant l'offrande du sacrifice. Les Rabbanan, selon les Chachamim d'Amré qui disent Endochin, que le nécessaire pour l'accomplissement d'une mitzvah ne repousse pas le Shabbat, selon eux, même si une mitzvah comme la circoncision et l'offrande du sacrifice repousse le Shabbat, il sera interdit de faire le nécessaire pour accomplir cette mitzvah. Selon eux donc, il est interdit de faire un nœud véritable pour réparer l'instrument de musique nécessaire pour l'offrande du sacrifice, on va, il ne sera permis que de le réparer avec un nœud coulant, qui est de toute façon permis le Shabbat. Alors la Gemara demande, « I Rabbi Eliezer, si notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Eliezer, afilu lechatrilanami, même au début aussi, c'est-à-dire il devrait même être permis de mettre une nouvelle corde à un instrument pendant le Shabbat, de même manière que selon lui, il est permis de fabriquer un couteau pour la circoncision pendant le Shabbat, alors qu'il était possible de le faire la veille, il devrait même être permis de mettre une nouvelle corde à un instrument de musique pendant le Shabbat, bien qu'il était possible de le faire la veille. Donc pourquoi la Mishnah l'interdit? La Gemara répond, et là plutôt, la Kashia, il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah et la Braïta. Ha, Rabbi Yehuda, la Mishnah suit l'opinion de Rabbi Yehuda, qui pense que même un nœud coulant est interdit minatora. Par conséquent, puisqu'on ne gagne rien à faire un nœud coulant pour réparer cet instrument de musique, il vaut mieux encore faire un nœud véritable pour que l'instrument marche mieux. Veha Rabbanan, tandis que la Braïta suit l'opinion des Chachamim, qui pense que seul le nœud véritable est interdit minatora, mais pas le nœud coulant. Par conséquent, puisqu'il y a la solution de réparer l'instrument de musique sans transgresser une interdiction minatora, c'est-à-dire par un nœud coulant, on se contentera du nœud coulant pour réparer l'instrument de musique, bien que finalement, l'instrument marchera moins bien. En la Gemara demande, « Verabi Yehuda alibademan » Même lorsque nous établissons la Mishnah selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qui dit que le nœud coulant est interdit au même titre qu'un nœud véritable, selon quel des Tanaïm que nous avons vus précédemment irait notre Mishnah?
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.